Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 13 mars 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a salué la position de la nation iranienne contre les complots de l'ennemi, affirmant que plus les adversaires exerceront de pression sur le pays, plus la réponse de la nation iranienne sera décisive. L'Arabie saoudite a refusé les visas à une délégation israélienne pour participer à un événement touristique et le Niger et le Bénin s'activent à finaliser leur pipeline. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le commandant chef du corps des gardiens de la révolution islamique a salué la position de la nation iranienne contre les complots de l'ennemi, affirmant que plus les adversaires exerceront de pression sur le pays, plus la réponse de la nation iranienne sera décisive. Le général de division Saïd Salami a fait cette remarque ce dimanche 12 mars lors d'un événement dans la ville de Rumiyé, dans le nord-ouest de l'Iran, dans la province d'Azerbaïdjan occidentale. Le commandant chef du CGRI a souligné la pression sans précédent et les hostilités de grande envergure contre la nation iranienne au fil des ans. Si une seule des nombreuses opérations menées par les ennemis au cours des 44 dernières années avait été menée contre l'un des pays les plus puissants du monde, ce pays se serait effondré. Mais grâce à la foi et la persévérance du peuple et au sacrifice des martyrs, aujourd'hui le nom de l'Iran brille de gloire à travers le monde. Le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Ramezan Sharif, a salué le mois dernier la capacité de dissuasion et la puissance militaire de l'Iran qui empêche les puissances mondiales d'agir contre la République islamique. Les forces armées iraniennes organisent régulièrement des manœuvres militaires pour améliorer leur état de préparation pour transmettre un message d'avertissement aux ennemis, selon lequel leur moindre action s'il fera l'objet d'une riposte écrasante de la part de l'Iran. A noter que l'Iran assura à plusieurs reprises aux autres peuples que sa puissance militaire ne représentait aucune menace pour eux, affirmant que les capacités militaires de la République islamique étaient de nature défensive. L'Iran souligne que l'accord conclu avec les États-Unis pour l'échange de prisonniers entre les deux pays est une question purement humanitaire qui ne doit pas être politisée. La remarque a été faite dimanche soir, 12 mars, par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, qui réagissait aux déclarations d'un responsable américain qui avait nié l'accord. Du point de vue de la République islamique, la question de l'échange de prisonniers est une question entièrement humanitaire qui ne doit pas être soumise à des jeux politiques, a noté Nasser Kanani. Il a affirmé que, depuis mars dernier, un accord écrit avait été signé entre les deux parties par un intermédiaire. Un représentant officiel présenté par la partie américaine a également signé l'accord. Mais celui-ci n'a pas été mis en œuvre jusqu'à présent par l'administration américaine sous diverses excuses, a-t-il précisé avant de conclure. Des messages indirects ont été échangés entre l'Iran et les États-Unis au cours des dernières semaines pour mettre à jour cet accord. L'accord a été annoncé plus tôt dans la journée du dimanche par le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, qui a affirmé que Téhéran et Washington étaient parvenus à un premier accord pour échanger des prisonniers. « Nous sommes parvenus à un accord ces derniers jours sur la question de l'échange de prisonniers », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, ajoutant que si tout se passait bien du côté américain, l'échange aurait lieu bientôt. « Le terrain pour sa mise en œuvre est maintenant préparé. » Et de notre point de vue, tout est prêt, tandis que les États-Unis travaillent actuellement sur la coordination technique finale, a expliqué le haut diplomate iranien. L'accord initial sur l'échange de prisonniers a été conclu entre Téhéran et Washington à Vienne, en marge des négociations concernant l'accord nucléaire de 2015. Téhéran a déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt pour un échange de prisonniers avec les États-Unis sur la base de l'accord et indépendamment de l'accord sur le nucléaire que les États-Unis ont unilatéralement abandonné en mai 2018, malgré le respect total et strict de l'Iran. L'Arabie saoudite avait refusé de délivrer des visas d'entrée à une délégation israélienne qui avait été invitée à un événement touristique parrainé par l'ONU dans le royaume, anéantissant pratiquement les espoirs de Tel Aviv de réchauffer les relations avec Riyad d'aussitôt. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, OMT, avait invité la délégation de la ville de Kfar Kama, dans la partie nord des territoires occupés, à participer à l'événement de 2 jours dans la ville d'Al-Ula, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, a rapporté Bloomberg dimanche 12 mars. L'OMT avait étendu l'invitation à la délégation composée de résidents de Kfar Kama après que l'organisme de l'ONU eut inclus le nom de la ville sur une liste exclusive de destinations touristiques. Les autorités saoudiennes ont cependant délivré des visas aux 22 pays invités à l'événement, mais ont refusé d'offrir des visas à la délégation israélienne. La délégation israélienne a commencé à s'inquiéter lorsqu'elle n'a pas reçu son visa au début du mois, a rapporté le quotidien israélien The Jerusalem Post, couvrant l'évolution de la situation. Le ministère des Affaires étrangères du régime sioniste, quant à lui, a envoyé une lettre à l'OMT insistant pour que la délégation reçoive ses visas, mais l'appel n'a pas arrangé la situation. Cette évolution a été considérée par les analystes comme un signe que les espoirs d'Israël de réchauffer les relations avec l'Arabie saoudite pourraient être imminents. En dépit des informations faisant état d'efforts diplomatiques entre Israël et l'Arabie saoudite et de leur volonté de normaliser leurs relations, la réalité sur le terrain semble être complètement différente. Le refus de Riyad de délivrer des visas à la délégation israélienne est intervenu quelques jours après que le Royaume et l'Iran ont conclu un accord pour reprendre leurs relations diplomatiques par le biais d'un accord négocié par la Chine. Ce dégel des relations irano-saoudiennes a irrité de nombreux responsables israéliens, actuels et anciens, qui ont désapprouvé la question comme un coup fatal aux projets régionaux et à la sphère d'influence de Tel Aviv. Le Niger et le Bénin s'activent à finaliser leur pipeline. Le pipeline servira au transport du pétrole brut nigérian vers le Berlin. Le ministre nigérian du pétrole, Mahaman Seni Mahamadou, et son homologue béninois de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, ont visité vendredi et samedi le site pétrolier d'Agadem, situé dans la région de Diffa, au sud-est du Niger. Les deux ministres se sont rendus à la station initiale du pipeline pétrolier commun pour le Niger et le Bénin, à partir de laquelle toute la production pétrolière du Niger sera acheminée vers le port de Sémé au Bénin, a rapporté le site d'information officiel du ministère nigérien du pétrole. À la fin des visites, les deux ministres se sont dit satisfaits de l'état d'avancement des travaux, dont le taux de réalisation est de 75%, a précisé la même source. Les travaux de construction du pipeline Niger-Bénin ont été lancés en 2019 et devaient être achevés avant fin 2022. Toutefois, en raison de la pandémie de la COVID-19, l'entreprise chinoise Vapco, qui les exécute, a dû les interrompre pendant plusieurs mois. Grâce au pipeline, le Niger ambitionne de mettre son pétrole brut sur le marché international dès le mois de juillet prochain avec une production journalière de 110 000 barils, dont 90 000 destinés à l'exportation. Le Niger exploite le pétrole depuis 2011 avec une production journalière de 20 000 barils raffinés localement par la société de raffinage de Zinder, Soras. La Corée du Nord a lancé dimanche deux missiles de croisière stratégiques depuis un sous-marin. Annoncé lundi 13 mars, l'agence nord-coréenne KCNA à quelques heures des exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington. Le tir a eu lieu au large de la ville côtière de Simpo, est de la Corée du Nord, dimanche matin. Les missiles stratégiques, généralement utilisés pour décrire les armes à capacité nucléaire, ont parcouru environ 1500 km avant de toucher une cible en mer, selon le rapport de KCNA. L'agence nord-coréenne d'information a déclaré que le tir de dimanche exprimait la position invariable de la Corée du Nord face à une situation dans laquelle les impérialistes américains et les forces fantoches sud-coréennes avancent de manière de moins en moins dissimulée dans leurs manœuvres militaires contre la RPDC, la République populaire démocratique de Corée. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Accord Téhéran-Riyad, l'ère post-US dans la région du Golfe Persique. Un nom conseiller militaire du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré qu'une ère post-américaine avait commencé dans la région du Golfe Persique à la suite d'un accord négocié par la Chine entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour rétablir leurs relations diplomatiques. S'exprimant dimanche 12 mars, le général de division Yahya Rahim Safavi a souligné que le récent rapprochement entre Téhéran et Riyad marquait la fin de l'hégémonie américaine dans la région. En ce qui concerne le récent accord, il s'agit d'un changement tectonique dans le domaine politique et la fin de l'hégémonie américaine dans la région. Et une ère post-américaine vient de commencer dans la région du Golfe Persique, a-t-il fait remarquer. Les Chinois ont décidé de devenir la première économie du monde d'ici 2030 et l'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, négocié par la Chine, a porté le deuxième plus gros coup chinois aux États-Unis. En effet, l'Arabie Saoudite est la plus grande source d'approvisionnement de pétrole de la Chine et l'accord de partenariat stratégique entre la Chine et l'Iran pour investir dans le développement de nos infrastructures était une mesure excellente. Ces remarques sont intervenues deux jours après que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades et missions diplomatiques dans les deux prochains mois. Le pacte fait suite à des jours de pourparlers intensifs à Pékin. Dans une déclaration conjointe publiée par l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Chine, Téhéran et Riyad ont souligné la nécessité de respecter leur souveraineté réciproque nationale et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures respectives. Ils ont convenu de mettre en œuvre un accord de coopération en matière de sécurité signé en avril 2001 et un autre accord conclu en mai 1998 pour renforcer la coopération économique, commerciale, d'investissement, technique, scientifique, culturelle, sportive et de jeunesse. Le général Rahim Safavi, un ancien commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, a exprimé l'espoir que la région évoluerait vers une sécurité et une paix durable grâce à la désescalade des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, notant que la puissance des États-Unis et des sionistes est en fort déclin. À mon avis, l'accord est dans l'intérêt des deux pays et de la région de l'Asie occidentale. Ce n'est contre aucun pays de la région. Bien sûr, il est naturel que les puissances arrogantes soient contrariées par la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite et essayent de le saboter, a-t-il déclaré. soulignant l'expansion de la sphère géoéconomique de la Chine dans le golfe Persique, le commandant haut gradé a prédit que Pékin et Moscou aideraient l'Arabie saoudite à devenir membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'alliance peut jouer le rôle d'une barrière contre l'OTAN, dirigée par les États-Unis et la puissance militaire de l'Occident à l'avenir, a conclu le général Rahim Safavi.
Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Presse TV, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant le Caucase, les relations iraniennes avec la région, notamment avec la Turquie, mais pas seulement, également les pays comme l'Azerbaïdjan. L'Iran ne l'a jamais menti, il a toujours indiqué qu'il voulait la paix dans la région, et donc ça passe par le Caucase. C'est le sujet du jour d'aujourd'hui. Comme le veut notre débat, nous allons commencer par un reportage qui fera le point sur la situation et par la suite nous ferons venir nos invités. Je vous propose donc notre reportage.
Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé ce mercredi 8 mars à Ankara, capitale de la Turquie, pour rencontrer son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu, exprimer la solidarité du peuple et du gouvernement iranien au gouvernement et à la nation turque. Les chefs de la diplomatie iranienne en turc ont discuté de divers sujets d'intérêt bilatéral et des questions régionales dont la présence du régime sioniste dans la région du Caucase avant de participer à une conférence de presse conjointe avec son homologue turc. Rappelons que la présence du régime israélien dans la région du Caucase faisait partie des problèmes importants auxquels la région est confrontée, Hossein Amil Abdollahian a averti toutes les parties d'être vigilantes face à cette affaire. Il a également déclaré que le terrorisme provenant de la région nord de l'Irak est une menace commune à la fois contre l'Iran et contre la Turquie. Selon Amil Abdollahian, l'Iran et la Turquie bénéficient d'un haut niveau de coopération en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme. Le terrorisme originaire de la région du Kurdistan irakien ainsi que Daesh originaire d'Afghanistan font partie de nos préoccupations communes, a-t-il déclaré. Nous pensons que le terrorisme n'est ni bon ni mauvais, mais un phénomène inquiétant sous toutes ses formes. Il a ensuite précisé que dans le cadre du droit international, l'Iran et la Turquie se réservent le droit à une défense légitime contre tout acte terroriste de n'importe quelle direction et par n'importe quel groupe. Ailleurs dans ses remarques, Amil Abdollahian a déclaré que l'Iran soutenait le rétablissement des relations entre la Turquie et la Syrie. Nous saluons le retour des relations Turquie-Syrie. Nous étions intéressés à travailler pour résoudre les malentendus entre la Syrie et la Turquie. Nous accueillons la participation dans n'importe quel format quadripartite, a-t-il dit. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé en Turquie voisine, plutôt dans la journée du mercredi, pour exprimer sa sympathie au gouvernement et au peuple turc suite au tremblement de terre dévastateur du mois dernier. Amil Abdollahian a en outre déclaré que Çavuşoğlu se rendrait bientôt à Téhéran et que des consultations avaient été également menées sur le voyage de Raïsi en Turquie.
Nous revoilà donc dans les studios. Tout de suite donc la venue de nos invités. Alors bonjour Monsieur Morgan Loss, donc iranologue et juriste en droit international. C'est notre expert du jour. Bonjour Monsieur Morgan Loss.
Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation et de saluer l'équipe de Presse TV ainsi que ses auditeurs.
C'est très aimable à vous et c'est un plaisir de pouvoir avoir votre expertise sur notre chaîne. Notre deuxième invité, vous le connaissez, c'est un de nos réguliers, Monsieur Luc Michel, géopoliticien, souvent au courant de la situation iranienne dans la région. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour à mon collègue et bonjour à votre équipe, bien entendu. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude.
Alors, comme vous le savez, l'Iran n'a pas, depuis ces dernières années, en particulier ces deux dernières années, n'a pas caché sa volonté de mettre la paix dans la région afin de pouvoir se développer, permettre le développement de son industrialisation notamment. Et ça passe notamment avec ses relations avec la Turquie, qui est liée à plusieurs affaires, l'affaire syrienne, l'affaire en Azerbaïdjan. Monsieur Bourgal, est-ce que vous pouvez nous donner un petit point de vue de la situation iranienne avec ses pays voisins, donc notamment les pays du Caucase, mais également avec la situation entre M. Erdogan, donc la Turquie, et la Syrie?
Alors oui, donc cette visite du ministre iranien des Affaires étrangères, M. Hossein Amir Abdollahian, dans le cours de laquelle il a rencontré son homologue turc, M. Mevlüt Cavusoglu, a permis de clarifier la position iranienne. L'Iran a d'ailleurs rappelé sa solidarité avec la Turquie, solidarité qui s'est concrétisée récemment par une aide humanitaire suite au tremblement de terre survenu au mois de février, ce qui est quand même assez remarquable puisqu'on a tendance à décrire l'Iran comme un pays assailli par les sanctions au bord de la ruine. Enfin, c'est du moins ce que l'on nous présente en Occident, et on constate que dans la réalité c'est totalement différent. En effet, les Iraniens ont eu un tremblement de terre à Roy, dans la région d'Azerbaïdjan occidental, quelques semaines avant celui survenu en Turquie et en Syrie. Et bien que les secours iraniens étaient occupés dans cette région, ça ne les a pas empêchés d'intervenir également en Turquie et aussi en Syrie, cela malgré les sanctions internationales qui bloquent toutes les aides en Syrie et qui n'ont pas été totalement levées, contrairement à ce que prétendent les Occidentaux. Les relations avec la Turquie et l'Iran sont également économiques. La Turquie est un grand partenaire économique de l'Iran. Mais cependant, ce qui nous interpelle, c'est la position turque sur l'échiquier géopolitique régional. En effet, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est très fortement préoccupant pour la région du Caucase, région dont l'embrasement serait dévastateur aussi bien pour l'Iran que pour la Turquie, mais également la Russie. Donc il faut rappeler que cette dernière assure une mission de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU dans la région du Haut-Karabakh, qui est disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc il m'apparaît également essentiel de rappeler certains faits historiques, notamment celui que l'Iran est un soutien indéfectible de l'Arménie, tandis que la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, la Turquie a effectué des exercices militaires conjoints avec l'Azerbaïdjan en décembre 2002 à proximité de la frontière iranienne. Donc, dans ce conflit, l'enjeu principal se porte sur le corridor de Zanguezour, qui est un passage reliant l'Arménie à l'Iran, et qui est vital pour l'économie arménienne, puisque l'Iran est son premier partenaire commercial. Autre fait historique que je souhaiterais rappeler, et là je souhaiterais également rappeler une vérité qui est occultée en Occident, puisqu'en Occident, on nous présente l'Arménie chrétienne comme assaillie par le monde musulman, voilà, tout ça pour renforcer et jouer sur le sentiment islamophobe. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'héritage historique...
Ah, nous avons été coupés. Monsieur Morgan Lott, est-ce que vous nous entendez? Alors nous avons perdu Monsieur Morgan Lott, je réessaye. Monsieur Morgan Lott, est-ce que vous nous entendez? Alors on va continuer avec la deuxième question qui était pour Monsieur Luc Michel. Comme l'indiquait d'un point de vue historique, l'Iran sur le dossier du Caucase et sur le dossier de la Turquie est extrêmement lié, son avenir est extrêmement lié avec les décisions turques. Est-ce que concernant l'influence israélienne, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie a décidé de plus ou moins normaliser ses relations avec l'entité sioniste, est-ce que ce n'est pas un danger pour toute évaluation et pour toute évolution en fait dans la région, Monsieur Luc Michel?
Ce qui est en cause, c'est toute l'ambiguïté de la position turque. Les Russes et les Iraniens ont réintroduit la Turquie dans le jeu géopolitique régional lors des accords de Sotchi. Mais en même temps, la Turquie, c'est la seconde armée de l'OTAN. Elle est alliée des États-Unis, elle est alliée d'Israël. Elle a notamment permis l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Elle a introduit les Israéliens dans l'équation azerbaïdjienne. Voilà ce qui se passe évidemment. C'est-à-dire que moi, je considère que la Turquie a uniquement une attitude opportuniste qui est faite de coups de poker géopolitiques et qui vient rapporter des avantages à Ankara, mais ce n'est pas une position fiable ni pour les Russes, ni pour les Iraniens.
Ni pour les Russes, ni pour les Iraniens, sachant que l'Iran cherche à s'industrialiser. Donc, éventuellement, le fait qu'il y ait la paix dans la région ne pourrait être que positif. Est-ce que c'est donc un enjeu important pour l'entité israélienne de ne pas provoquer de paix, donc de provoquer des conflits, même mineurs, dans la région?
Écoutez, depuis l'invasion de l'Iran, les Américains essayent de s'emparer de l'Asie centrale. Ils ont échoué dans des pays comme le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, etc. Mais leur point fort, évidemment, c'est l'Azerbaïdjan. Il y a quelques années, il y avait une alliance géopolitique anti-russe qu'on appelait le GUAM, qui réunissait la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ça a donné des résultats. Les Russes ont réussi à éviter l'implantation des Américains. Et des
Donc, nous avons également perdu M. Luc Michel. Est-ce que Morgan Lotz est de retour? Est-ce qu'on on a réussi à le recontacter?
Oui, je vous entends, je suis présent.
Ok, génial, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous avez entendu les propos tenus par M. Luc Michel concernant donc, l'influence de l'entité sioniste dans la région et le fait que l'Iran travaille à la stabilisation de la région en permettant la paix, notamment, ce n'est pas seulement ça, et que l'entité sioniste pourrait donc être le tout troublion dans l'histoire en provoquant donc des incidents mineurs et même majeurs et qui pourrait donc freiner le gouvernement iranien et les gouvernements en essayant donc de mettre cette stabilité.
Oui, tout à fait. Donc, à ce sujet, on peut rappeler la réalité historique, qui est que l'Azerbaïdjan entretient des liens avec Israël depuis 1992, donc presque depuis son indépendance, et que l'Azerbaïdjan a toujours joué le jeu américain-israélien dans la région, qui consiste à tenter de fracturer l'Iran avec ses différentes ethnies. Parce que l'Iran est un pays avec différents peuples, le plus important étant bien évidemment les Persans, et le deuxième étant les Azéris, présents dans le nord-ouest de l'Iran. Et l'Azerbaïdjan tente de jouer sur un éventuel sentiment nationaliste qui pourtant n'est pas excessivement présent en Iran, puisque les Azéris se sentent pleinement iraniens. Hein, il est bon de rappeler que le guide de la révolution, Sayyed Ali Khamenei, est né d'un père persan et d'une mère azérie. Et cette stratégie de vouloir créer des séparatismes régionaux, en fait, est une stratégie à la base américaine. En témoignent les financements américains de divers groupes terroristes qui ont commis des attentats dans le Baloutchistan, notamment Jandala. Et cette stratégie est reprise par Israël et l'Azerbaïdjan, mais elle ne fonctionne pas. On l'a bien vu lors des récents troubles en Iran. Il y a eu une tentative de promouvoir un éventuel séparatisme, notamment via la guerre médiatique, mais dans les faits, ça ne s'est jamais concrétisé en Iran. Autre problème qui démontre de quel côté se trouve la volonté belliqueuse, l'Azerbaïdjan a permis à Israël de disposer sur son territoire de plusieurs bases militaires, ainsi que de stations d'écoute, afin de surveiller l'Iran, et éventuellement de servir de base avancée à Israël pour d'éventuelles attaques contre l'Iran. Donc, une fois de plus, les faits démontrent que l'attitude belliqueuse est du côté israélien et non pas du côté iranien. Il est bien normal que les Iraniens défendent leurs frontières et leurs territoires, c'est tout à fait normal pour un pays souverain, et ça ne doit pas servir d'éventuelles accusations contre l'Iran.
Est-ce qu'on peut dire la même chose du Kurdistan irakien? Excusez-moi de vous avoir interrompu. Est-ce qu'on peut dire que cette influence, elle se fait de la même manière, peut-être moins forte, mais quand même là, concernant le Kurdistan irakien? On a pu voir lors des manifestations il y a 4-5 mois de ce qui se passait au niveau des frontières donc du Kurdistan irakien-iranien. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus ou moins la même influence qui se passe?
Oui, tout à fait. C'est une fois de plus la stratégie américaine israélienne de se dire on va monter les différentes régions et différentes ethnies les unes contre les autres en instillant une volonté d'indépendance. Mais le problème pour les Israéliens et les Américains, c'est que l'indépendance de ces régions est un leurre. En effet, il est bon de rappeler, par exemple, l'héritage historique entre l'Arménie et l'Iran, c'est que l'Arménie et même l'ensemble du Caucase ont pendant très longtemps été des régions iraniennes. Sous l'Antiquité, si vous prenez une carte des empires iraniens sous l'Antiquité et même de l'Empire Safavide, vous verrez que le Caucase est une région de l'Iran. Hein, d'ailleurs, il est bon de noter que les plus grands généraux sous Shah Abbas et ses successeurs Safavides étaient des chrétiens arméniens. Donc une fois de plus, ça démontre quoi? Ça démontre que cette tentative de séparatisme, cette tentative de monter le peuple iranien, les Iraniens les uns contre les autres pour des raisons futiles, est totalement vouée à l'échec. D'ailleurs, il est bon de rappeler que les minorités religieuses disposent d'un député au Parlement, en vertu de l'article 13 de la Constitution de la République islamique d'Iran. Donc que toutes ces minorités sont très bien intégrées et vivent en harmonie et en cohésion en Iran. Ce que, évidemment, les Occidentaux voient d'un mauvais œil, puisque ça renforce l'unité iranienne. L'Iran a toujours été uni. Hein. Il n'y a pas de volonté séparatiste, il n'y a pas de volonté d'indépendance pour chaque région. Même si voilà, la question kurde, qui dépasse l'Iran, hein, puisque ça touche également l'Irak, la Syrie, la Turquie, la question kurde est instrumentalisée par les Occidentaux, qui s'en servent comme chair à canon, et les abandonnent aussitôt qu'ils n'en ont plus besoin.
Alors, j'ai une question à vous poser, j'en profite, vous qui êtes iranologue. Beaucoup d'opposants à l'Iran indiquent que l'Iran ne cherche pas à avoir d'amis, cherche à rester en conflit avec les pays occidentaux ou tout pays qui ne serait pas d'accord avec sa politique de relations internationales. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces opposants? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Iran ne fait pas d'efforts dans ce sens? Est-ce que l'Iran se trompe dans sa manière de gérer sa politique internationale, sachant les 40 dernières années de sanctions et d'ultimatum que l'Iran a subi?
Alors déjà, il faudrait que les opposants iraniens soient iraniens, parce que visiblement, ils ne connaissent pas du tout leur pays, ils ne connaissent absolument pas l'histoire de l'Iran, ni même sa culture. Je suis désolé de les contredire, ça va pas leur plaire, mais c'est pas grave. Moi, mon travail, c'est d'étudier l'histoire, et l'histoire nous montre que ces 40 dernières années, l'Iran n'a jamais été contre des relations d'amitié avec ses voisins ou avec d'autres pays. Regardez un peu la diplomatie iranienne, elle est présente en Amérique du Sud, en Amérique latine, elle est présente en Afrique, maintenant en Asie centrale et en Chine, également avec la Russie. Encore aujourd'hui, une université va être ouverte en Afrique de l'Ouest en partenariat avec l'Iran. Donc si ça, ce n'est pas des liens d'amitié, je ne sais pas quelle est leur conception de l'amitié. Autre fait, ce n'est pas l'Iran qui a quitté l'accord sur le nucléaire. L'Iran a accepté de restreindre son programme nucléaire, y compris civil, hein, ce qu'aucun pays n'a jamais accepté. L'Iran l'a accepté par la voie diplomatique, et ce sont les Américains qui ont gâché l'accord sur le nucléaire. Donc il ne faut absolument pas croire ces mensonges, ces manipulations qui consistent à dire que l'Iran ne veut pas d'amis, bien au contraire. L'Iran est un pays qui défend la diplomatie, qui respecte le droit international, et je pense que les Occidentaux devraient se remettre en question quant à leur manière d'aborder les processus de paix et la diplomatie dans le monde.
Alors on va voir si notre deuxième invité est de nouveau joignable. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Ravi de vous réavoir. Alors, est-ce que vous avez entendu les propos tenus par M. Morgan Lutz, que je rappelle iranologue, également juriste en droit international? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur ces propos?
Oui, il faut dire que l'Iran a une grande politique régionale en liaison avec Moscou et avec Pékin. C'est une alliance de puissance eurasiatique et c'est une des trois capitales de l'Eurasie en marche. Les Américains ont perdu la main en Asie centrale. Ils se servent de l'Azerbaïdjan avec l'aide des Turcs et des Israéliens comme d'un cheval de Troie. Il y a eu des tentatives dans d'autres pays. Début 2021, il y a eu une tentative de révolution de couleur au Tadjikistan qui a obligé l'Organisation du traité de sécurité collective de faire intervenir des troupes. Donc l'élément disturbeur, ce n'est pas l'Iran, ce sont les Américains.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Morgan, nous avons eu le plaisir d'avoir un économiste la semaine dernière sur la question iranienne qui indiquait que l'Europe aurait tout intérêt de faire la paix avec l'Iran, en tout cas de commencer des vraies relations diplomatiques et économiques. Est-ce que vous, en tant que de juriste à droit international, malgré le fait que l'Iran se soit rapproché donc de Pékin et de Moscou, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'Europe dans la dans la diplomatie iranienne?
Alors, il y a une place pour l'Europe, oui, si l'Europe accepte de prendre cette place et de respecter ses engagements. Le problème de l'Europe, c'est que les Européens se comportent comme les laquais et les serviteurs des Américains. C'est-à-dire que Washington décide et l'Europe suit. Alors il serait bon que les Européens se souviennent de la politique du général de Gaulle lorsqu'il était président de la République française entre 1959 et 1969, qui était une politique d'indépendance. Et d'ailleurs, le général de Gaulle avait quitté l'OTAN et avait chassé les Américains qui disposaient de bases militaires en France. Alors, il faudrait que les Européens acceptent une vraie politique d'indépendance pour eux-mêmes. Ce sont d'ailleurs les premiers gagnants d'une politique d'indépendance et de souveraineté européenne. Et oui, les Européens peuvent revenir discuter avec les Iraniens, mais le problème, c'est que les Européens traînent leur casserole. Voilà, ils devaient lever des sanctions suite à l'accord sur le nucléaire, ils ne l'ont pas fait. Ils suivent aveuglément la politique américaine contre l'Iran, contre la Russie, contre la Chine et contre beaucoup de pays qui sont dans le collimateur de Washington. Donc c'est aux Européens de devenir crédibles.
Merci,
la
monsieur.
Parole européenne n'est plus...
Alors, pour vite conclure, pour vous donner aussi la parole à monsieur Luc Michel, en conclusion, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, dans la situation économique et du fait qu'il y a une politique, le fait que les pouvoirs en ce moment se battent pour que différentes influences dans le monde existent, est-ce que vous pensez que la région de l'Eurasie, la région du Caucase, la région même des Arabes, après les visites par exemple des différents présidents des parlementaires arabes, la paix peut réellement s'installer de manière de longue durée avec de vraies relations diplomatiques et économiques dans la région? Est-ce que le travail des Iraniens ne va pas être vain? Monsieur Morgan Lotz, vous êtes là? Alors,
oui,
monsieur Luc, oui, est-ce que vous avez entendu ma question?
Oui, j'ai entendu votre question. Oui, alors, est-ce que rétablir des relations diplomatiques, l'Iran va en ce sens? L'Iran dispose de relations diplomatiques avec énormément de régions dans le monde. Après, c'est ce qu'on on a une parole dans l'Évangile qui dit « paix entre les hommes de bonne volonté ». Les Iraniens sont de bonne volonté pour la paix, et c'est au tour des Européens de l'être. Et je prends un exemple très simple. Les Européens agressent et tensent sans cesse l'Iran sous le prétexte de droits de l'homme. Pourtant, les Européens n'ont qu'une gêne à établir des relations commercial avec l'Arabie Saoudite, qui est l'une des plus abominables dictatures au monde, qui d'ailleurs en ce moment décapite chaque jour des opposants politiques ou des minorités religieuses. Voilà, les Européens ne sont pas dérangés par ça, pourtant ils s'en prennent à l'Iran. Donc on voit très bien que c'est une question de volonté, c'est une question de lucidité. Il y a une hypocrisie dans l'Occident qui est absolument abominable. On le voit avec ses alliances, et moi je le dis très simplement, l'Europe a tout intérêt à s'allier avec des pays stables comme l'Iran, qui eux ne posent pas de problème comme l'Arabie Saoudite peut en poser, notamment via le financement du terrorisme.
Merci, monsieur Morgan Lotz. Donc, monsieur Luc Michel, également en conclusion, est-ce que vous pensez que le travail depuis plusieurs années de l'Iran de stabiliser la région et de mettre la paix, donc notamment avec sa visite, cette dernière visite de monsieur Amir Abdullahian en Turquie, cherchant également à introduire un système de paix et de stabilité dans la région, est-ce que donc c'est une énergie vaine, ou est-ce qu'on va pouvoir voir grâce à ce conflit, j'ai envie de dire, ou malheureusement, dû à ce conflit avec l'Ukraine, on va pouvoir voir cette stabilité enfin s'installer dans la région?
On voit une stabilité parce que la politique iranienne se fait en liaison avec Moscou et Pékin. Ce qu'il faut, c'est mettre un terme à la question de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un projet géopolitique borné. Dans le traité de Maastricht, l'Union européenne confie sa défense à l'OTAN. C'est aujourd'hui simplement le bras armé de l'OTAN. Bruxelles a développé une politique de partenariat orientée vers des pays comme la Moldavie, l'Ukraine, le Bélarus, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Le but, c'est de les intégrer à l'Union européenne en tant qu'étape intermédiaire avant leur intégration à l'OTAN. C'est une politique anti-russe et anti-iranienne qui n'obtiendra aucun résultat. Les Européens sont en train de s'exclure comme une grande puissance mondiale. C'est cela qu'il faut retenir.
Eh bien, c'était les mots de conclusion de notre débat d'aujourd'hui. Je rappelle donc nos deux invités, M. Morgan Lotz, iranologue, juriste en droit international, et M. Luc Michel, expert et géopoliticien, notamment pour notre chaîne. C'était donc le sujet d'aujourd'hui, l'Iran et ses pays voisins. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui pour notre débat. N'hésitez pas à revoir ou voir notre programme sur nos différentes plateformes et sur notre site internet. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un prochain sujet du débat. Au revoir.
L'Iran et son 7e art. Saniol Molk, le portraitiste. Mirza Aboulhassan Khan, Ghaffari Kashani, 1229-1283 de l'Égypte, fut l'une des figures de proue de la peinture iranienne à l'époque de la dynastie des Rajars, tout comme son frère Abu Torab et son neveu Mohammad Ghaffari, Kamal al-Mulk. Il fut l'un des membres le plus célèbre de la famille d'artistes des Ghaffari. Aboulhassan Khan Ghaffari est mort assez jeune, à l'âge de 53 ans. Son portrait quadragénaire, dessiné par son fils Yahya Ghaffari, est sans doute la copie d'une photo de l'artiste. Dans ce portrait, Mirza Aboulhassan Khan porte une longue toque noire et une petite barbe. Son visage et surtout son regard calme et un peu déprimé le présentent comme un rêveur perdu dans son imagination. Cependant, Aboulhassan Khan fut un artiste très productif. Parmi ses œuvres les plus importantes, il y a ses portraits et les illustrations des Mille et une nuits qui font de lui un artiste remarquable et énigmatique de son époque. Mirza Aboulhassan Khan Ghaffari, alias Saniol Molk, reste encore une référence dans les techniques du portrait, de l'illustration et des dessins graphiques. Saniol Molk n'avait que 15 ans lorsqu'il devint élève de Mehr Ali Esfahani, directeur de l'atelier royal de la cour de Fateh Ali Shah, pour apprendre l'art de la peinture. En 1285, il fut autorisé à faire un portrait de Mahamad Shah et devint à son tour directeur de l'atelier royal. À 34 ans, vers la fin du règne de Mahamad Shah, il se rendit en Italie pour étudier de près les œuvres des grands artistes de la Renaissance. Il passa son temps à étudier à l'école des Beaux-Arts à Rome, à Venise et à Florence et fit plusieurs copies des tableaux de Raphaël, 1483-1520, grand peintre italien. Il était encore en Europe lorsque le roi Mohammad Shah décéda et que le prince héritier Nasiruddin Mirza vint de Tabriz à Téhéran pour accéder au trône. 3 ans plus tard, le jeune redésigna officiellement Aboulhassan Khan au poste de directeur de l'atelier royal. À l'époque où le jeune roi vivait encore à Tabriz, siège traditionnel des dauphins de la dynastie Rajar, il eut les Mille et une nuits, traduit de l'arabe en persan par Molla Abdelratif al-Tasuji. Le prince héritier souhaita alors avoir une copie illustrée de cet ouvrage. Une fois accédé au trône à Téhéran, après le décès de son père, Nasser Eddin Shah donna l'ordre à l'atelier royal de préparer une nouvelle édition de cette même traduction des Mille et une nuits. Pendant ces temps, de 1264 à 1271 de l'Égir, 43 artistes ont travaillé à l'atelier royal pour calligraphier, enluminer et illustrer cet ouvrage. Le projet avait été confié à Dost Ali Khan Mohirul Mamalek. Ce dernier signa un contrat de 3 ans avec Saniol Molk pour l'enluminure et l'illustration des Mille et une nuits. Après avoir obtenu ce contrat, Saniol Molk engagea 34 peintres et 7 enlumineurs et relieurs pour réaliser l'œuvre royale. Finalement, il élabora les Mille et une nuits en 6 volumes de 2280 pages. Sur chaque page du livre, les artistes illustrateurs ont dessiné de 3 à 6 scènes. Le livre contient au total 3600 illustrations. Il y a des documents qui prouvent que les illustrations des Mille et une nuits ont été effectuées avec une méthode traditionnelle. Le maître, à savoir Saniol Molk, lui-même s'occupait du visage des personnages. Car, pendant cette même période, il était en train de peindre les fresques du palais Nezamiyeh, tandis que ses élèves dessinaient les vêtements des mêmes personnages ou les autres éléments décoratifs des tableaux. L'originalité et la nouveauté des illustrations des Mille et une nuits résident en grande partie dans le fait que, contrairement aux habitudes des illustrateurs iraniens étrangers de l'époque, Saniol Molk et son équipe n'ont pas représenté dans leurs tableaux le monde arabe du Moyen-Âge et de l'époque de Harun al-Rachid, mais le monde iranien du XIXe siècle. Yahya Zoka estime à juste titre que les illustrations des Mille et une nuits constituent de précieux documents historiques, sociologiques et anthropologiques qui révèlent le mode de vie et les us et coutumes des Iraniens pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Cet ouvrage contient alors l'ensemble le plus complet d'illustrations pour une œuvre littéraire en Iran, représentant les diverses scènes de la vie quotidienne, bain, cuisine, salle à manger, ainsi que des scènes d'amitié, d'amour, de guerre et de paix, d'animosité, de complot, de meurtre, etc. Dans ces tableaux, les personnages apparaissent comme au théâtre, chacun à son tour, et on les voit en mouvement, faisant les gestes les plus naturels, comme dans les séquences successives d'un film. Les éléments spécifiques de la peinture iranienne contribuent grandement à l'apparition d'un style bien distinct des éléments particuliers de la peinture occidentale. Dans les illustrations des Mille et une nuits, les détails et les ornements minutieusement travaillés des vêtements, des tissus ou des tapis enrichissent et accentuent cette couleur locale. La coloration semble plus lourde et plus dense par rapport aux peintures plus anciennes. Par conséquent, la variété des couleurs utilisées dans ces tableaux est relativement plus limitée, quoique les œuvres n'aient rien perdu de leur harmonie éblouissante qui caractérise le climat général de la peinture iranienne. Dans des scènes de pure imagination et des fables, l'influence des écoles européennes est évidente. La combinaison des techniques iraniennes et européennes s'effectue essentiellement dans la perspective. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'apparition d'une dérive, car dans les traditions de la peinture académique de l'Europe, la perspective est l'art de représenter les objets sur une surface plane de telle sorte que leur représentation coïncide avec la perception visuelle qu'on peut en avoir, compte tenu de leur position dans l'espace par rapport à l'œil de l'observateur. Or, les traditions de la peinture iranienne ne connaissent pas cette notion de perspective, les scènes étant peintes essentiellement en plan. Dans la combinaison que Samuel Mölk faisait des dessins en perspective et des dessins en plan, il y a donc des erreurs de perspective, le point de fuite étant souvent mal placé. Les portraits que Samuel Mölk a fait de l'aristocratie Qajar constituent une grande partie de ses œuvres picturales. Le portrait de croupe que Samuel Mölk fit des aristocrates Qajar en 1853-1270 de l'Égypte se compose de 7 scènes et 84 visages, notamment celui de Nasser Eddin Shah, à 25 ans, en tenue royale avec ses joyaux, monté sur Tarté Tavus, le trône du Pan, trône des empereurs persans depuis Nader Shah. Selon les experts, certains de ces portraits ont été peints d'abord à l'aquarelle à partir de modèles vivants, mais étant donné l'apparition de la photographie, il paraît que la plupart des portraits auraient été peints d'après photo. Dans les portraits de Samuel Mölk, la psychologie des personnages rappelle celle des portraits de Francisco Goya. Comme dans les portraits que Goya avait fait des membres de la famille royale d'Espagne, Samuel Mölk aussi a élaboré dans ses portraits une étude psychologique des personnalités de la cour des Qajar, portraits caractérisés surtout par une ironie noire qui se raille de la fausse gloire de l'aristocratie.
Thank you.